They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆家正忙
着切切切切切
切切
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50. Une émission préparée ce matin par Clément Salazar, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Xavier Martinet, Hélène Paquet. Réalisée par Perret Legras et mise en onde ce matin par Clément Daté. Nouvelle semaine consacrée à la justice internationale, cour pénale internationale, tribunal pénal international, arbitrage, écocide. Mais pour commencer cette série, on va s'intéresser à une institution qui a fêté il y a quelques jours ses 70 ans, la Cour internationale de justice.
Lors de l'inauguration de la Cour permanente de justice internationale, je déclare solennellement que j'exercerai tous mes devoirs et attributions de juge en tout honneur et dévouement.
La Cour internationale de justice est une institution judiciaire unique au monde. Elle est un précieux outil de paix à leur service.
Georgia respectfully requests the court.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo prie la Cour.
Serbia requests the court to adjudge and declare.
La République du Niger prie la Cour. De dire et juger que.
Je déclare cette séance solennelle close.
In a most substantial sense, a pivotal point in the organization of peace.
Des centaines d'audiences depuis la session inaugurale de la Cour internationale de justice qui s'était tenue le 18 avril 1946. Il y a donc un tout petit peu plus de 70 ans, sous la houlette de son premier président, José Gustavo Guerrero, diplomate et juriste salvadorien qui avait également présidé la Société des Nations de 1929 à 1930. Si elle a pris la suite de la Cour permanente de justice internationale, apparue 23 ans plus tôt, la Cour internationale de justice, créée en 1945 lors de la mise en place de l'Organisation des Nations Unies, elle en est l'organe judiciaire central et sa mission est de régler des conflits juridiques soumis par les États et de donner un avis sur des questions juridiques, des décisions qui, si elles ne sont pas contraignantes, peuvent toucher à des domaines très divers. Alors les conflits territoriaux, la préservation de l'environnement ou encore le droit humanitaire. En 70 ans d'existence, les 15 juges élus pour 9 ans du Palais de la Paix de La Haye ont rendu près de 200 avis. Si pendant la guerre froide, son activité tournait un peu au ralenti, les mauvaises langues l'appelaient d'ailleurs la Cour sans affaires. Les choses ont bien changé depuis et les États n'hésitent plus à se tourner vers elle pour trancher leurs différends. Jusqu'ici, pas moins de 91 États ont été concernés. 28 en Europe, 25 en Afrique, 20 en Asie et en Océanie et 18 en Amérique. Celle qui occupe beaucoup l'institution en ce moment, eh bien, c'est la plainte des îles Marshall contre 3 pays, l'Inde, le Pakistan et le Royaume-Uni, qu'elle considère comme responsable des conséquences des essais nucléaires réalisés dans la région, bafouant les engagements pris dans le cadre du traité de non-prolifération. On en parlera tout à l'heure avec Laurie Ashton depuis Phoenix, qui est justement l'avocate des îles Marshall. On va tenter de comprendre comment fonctionne la CIJ, la Cour internationale de justice, de voir ce qu'elle révèle des relations internationales et de leurs évolutions. Ses avis sont-ils respectés? Permettent-ils d'améliorer les relations diplomatiques? C'est d'ailleurs la question qu'on se posera tout à l'heure à propos du Costa Rica et du Nicaragua, deux pays qui ont plusieurs fois sollicité la CIJ. Quels en furent les effets pour ces deux voisins qui ont toujours eu des relations, disons, difficiles? On en parlera tout à l'heure avec Nicolas Béglin, qui est chercheur et enseignant en droit international à l'Université du Costa Rica. Et puis on s'intéressera évidemment à bien d'autres décisions qui nous permettront de comprendre la mécanique du droit international. Pour commencer cette série consacrée à la justice internationale, l'invité que nous avons ici ce matin, c'est Serge Sur. Bonjour Serge Sion.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit international et puis également rédacteur en chef de questions internationales. J'indique aussi que vous avez été juge ad hoc à la Cour internationale de 2009 à 2012.
12.
C'est correct. Alors, à côté de la salle de délibération, on trouve une croupie. Je crois que je l'avais dit lorsqu'on avait déjà eu l'occasion de discuter de la Cour internationale de justice ensemble il y a quelques années. Une copie du Christ Rédempteur qui est finalement le même que celui qu'on trouve dans la cordillère des Andes à la frontière entre l'Argentine et le Chili et qui célèbre la résolution pacifique du différent frontalier entre les deux pays. Alors à l'époque, c'est pas la CIJ qui avait résolu le problème. L'accord avait été trouvé en 1902 grâce au concours de l'ambassadeur des États-Unis d'un côté et puis du roi du Royaume-Uni, Édouard VII, de l'autre. Elle incarne parfaitement la mission de la CIJ, plaider la paix par le droit.
On peut dire cela, mais tout de même avec de grandes limites, parce que la compétence de la Cour est volontaire, c'est-à-dire qu'il faut que les États qui se présentent devant elle l'aient préalablement accepté. Est préalablement accepté par divers moyens. Ça peut être une déclaration générale, ça peut être un accord à l'occasion d'un traité particulier, mais il se trouve que, parmi les États les plus importants, bien peu ont accepté le principe même de cette juridiction volontaire, et par exemple la France ne l'accepte pas après avoir retiré sa déclaration.
En réalité, c'est même une minorité qui l'accepte.
C'est une minorité, peut-être pas quantitativement, mais en tout cas qualitativement, indiscutablement, les grands pays sont très réticents à l'idée de confier des différends qui peuvent avoir une dimension d'intérêt national pour eux à un tribunal aussi respectable soit-il, et ils préfèrent indiscutablement les négociations directes, voire geler les contentieux. Alors, le rôle de la Cour est très loin d'être négligeable. Il est d'abord très important en ce qui concerne le droit international. Et le droit international est un instrument permanent des relations internationales. Tous les États l'utilisent, tous les États affirment le respecter, même si cela peut être contesté. C'est un instrument de dialogue entre eux. Et de ce point de vue, la Cour joue un rôle, je dirais, régulateur. Mais quand il s'agit des différends particuliers, ce rôle suppose que les parties se soient au départ entendues. C'est-à-dire que lorsqu'il
y a sur la question de la reconnaissance, peut-être il faut être un peu précis, parce que je crois que si j'ai bien compris, il y a plusieurs niveaux de reconnaissance. Il y a, disons, une reconnaissance permanente, totale, et puis il y a des reconnaissances, disons, temporaires. C'est comme ça qu'on peut dire les choses ?
Alors, temporaire, il peut y avoir une reconnaissance au cas par cas. Mmh. C'est-à-dire que pour un différend déterminé, des parties, des États peuvent accepter la compétence de la Cour. Il peut y avoir une compétence spéciale qui est donnée par un traité, qui comporte ce qu'on appelle une clause compromissoire, c'est-à-dire que pour les problèmes concernant l'interprétation et l'application de ce traité, les parties conviennent de s'en remettre à la Cour internationale. Et encore, souvent cette clause est facultative et elle est alternative avec l'arbitrage, c'est-à-dire que si on préfère l'arbitrage, on peut recourir à l'arbitrage. Et puis il y a la déclaration qui est faite en vertu du statut de la Cour, déclaration par laquelle les États s'engagent de façon générale, à reconnaître la compétence de la Cour pour toute une série de différends. Mais ils peuvent introduire des réserves dans cette déclaration générale. C'est-à-dire qu'ils peuvent exclure certaines catégories de différends, par exemple ceux qui ont trait à la défense nationale. Mais alors qui va apprécier ? Qui va dire tel différend relève de la défense nationale ou pas ? Normalement, c'est la Cour qui est juge de sa propre compétence. Mais vous voyez que ça crée toute une série de difficultés, de telle sorte que souvent, les décisions de la Cour comportent deux étapes. Une première étape qui est celle de la compétence. On conteste devant elle la compétence de la Cour. Et elle se prononce sur cette compétence. Puis, dans un deuxième temps, et à supposer qu'elle l'ait acceptée, on se prononce sur le fond. Ce qui fait que les décisions de la Cour ou les processus judiciaires deviennent un petit peu un roman à épisodes qui peut durer 7 ou 8 ans. Mais enfin, après tout, les juridictions internes ne sont pas forcément plus rapides.
Et alors, dans le paysage de ces décisions prises par la Cour, on a différentes choses. On a d'un côté les arrêts, d'autre côté les avis consultatifs.
Voilà.
Peut-être une différence.
Voilà. Et ce sont deux missions qui sont tout à fait différentes, même si dans la jurisprudence, la Cour a tendance à se référer aux uns et aux autres sans faire de véritable différence. Mais dans l'origine et dans la nature de ces décisions, il y a une profonde différence. Les avis sont demandés uniquement par des organisations internationales, l'ONU et les organisations habilitées.
C'est-à-dire les pays, en fait.
Non, uniquement les organisations internationales.
D'accord.
Et encore pas par tous les organes des organisations. Par exemple, le secrétaire général des Nations Unies ne peut pas demander d'avis à la Cour. L'Assemblée générale le peut, le Conseil de sécurité le peut, mais pas le secrétaire général. Il aimerait bien pouvoir le faire, ça l'aiderait, mais les organes politiques lui refusent cette capacité. Et il s'agit d'éclairer les organisations sur leur fonctionnement. Et leur fonctionnement entendu au sens très large. Ça peut être des points de droit international qui concernent très lointainement l'organisation, mais enfin, les organisations n'hésitent pas à le faire. D'où, par exemple, la question sur les armes nucléaires. Quant aux arrêts, il s'agit de différends d'ordre juridique entre États et les organisations ne peuvent pas être parties à ce qu'on appelle la procédure contentieuse, c'est-à-dire celle qui concerne les différends. Donc on va distinguer la procédure consultative et la procédure contentieuse. Lorsqu'il y a avis, il n'est pas obligatoire, il est simplement l'avis de sage qui peut éclairer mais qui n'oblige pas. En revanche, lorsqu'il y a arrêt, les parties sont tenues de le respecter et de l'appliquer, mais cet arrêt n'a qu'une force obligatoire, n'a qu'une autorité relative de la chose jugée. C'est-à-dire qu'il ne vaut que pour les parties et non pas pour les autres États. Donc ça limite aussi l'impact.
Il n'y a pas de caractère véritablement contraignant.
Alors, il y a un caractère obligatoire. Exécutoire, c'est une autre affaire. Obligatoire, ça veut dire que vous avez l'obligation juridique de respecter. Mais exécutoire, la Cour n'a pas de moyens d'exécution. Théoriquement, d'après la charte, une partie qui voit un arrêt en sa faveur non exécuté peut saisir le Conseil de sécurité et lui demander de l'aider ou de faire exécuter l'arrêt. Mais en pratique, c'est impossible et jamais le Conseil ne s'est engagé dans cette voie.
On va y venir justement. Tiens, un petit exemple. Là, c'est une affaire qui concernait le Niger et le Burkina. Le Niger qui, en avril 2013, avait finalement gagné quelques kilomètres carrés du territoire burkinabé, souvenez-vous.
Nous l'habitons à Burkina. C'est l'État burkinabé qui nous commande. Mais maintenant, il est dit nous sommes Nigériens. Nous ne sommes pas contents. Parce qu'actuellement, il y a de notre sang à Niger. Maintenant, le Niger va venir dire on va soulever dans notre sang. Nous aussi, il n'est pas content ça. Parce que nous sommes nés dans le Burkina. Maintenant, notre sang là, même nous démilanger aller quelque part, est-ce que nous va gagner le notre sang là?
Les frontières étant connues, ça permet de s'occuper d'autres choses, de s'occuper de l'intégration, de s'occuper du rapprochement entre nos peuples, de la construction de notre communauté commune. Donc voilà l'intérêt de ce gouvernage-là. Donc loin de nous séparer.
Voilà, on entendait un habitant justement de cette région concernée, et puis juste après, Massadou Assoumé, qui était le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique du Niger. En fait, cet avis de la Cour internationale de justice, il avait été respecté finalement par les deux pays. D'ailleurs, les relations diplomatiques, c'était un peu arrêt, pardon. Et donc, les relations d'ailleurs diplomatiques entre les deux pays s'étaient un peu améliorées. L'Afrique, c'est probablement le continent qui a le plus sollicité la Cour internationale de justice. Pour quelle raison ?
Écoutez, je crois qu'en Afrique, il y a un respect assez profond des institutions internationales. On se rend compte que lorsque même l'Assemblée générale, qui n'est en principe ne prend que des résolutions, des recommandations, prend une position, les États africains sont très attentifs et très désireux de ne pas se mettre en faute par rapport à l'organisation. C'est une attitude qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres continents. Mais en Afrique, il faut bien dire que l'Afrique actuelle, elle est très largement née grâce aux efforts des Nations Unies qui ont soutenu la décolonisation et qui ont accueilli les nouveaux États africains. Donc, la participation à la vie internationale des États africains, elle se fait très largement, en tout cas sur le plan multilatéral, à travers et par l'ONU. En outre, lorsqu'ils ont des difficultés politiques ou autres, ou économiques, c'est vers les Nations Unies qu'ils ont tendance à se retourner pour les opérations du maintien de la paix, pour l'aide au développement. Donc, pour eux, c'est une sorte de mère nourricière et d'infirmière en même temps.
10 ans plus tôt, quasiment, juillet 2004, la CIJ avait rendu, alors c'était un avis ou un arrêté à propos du mur édifié par Israël? Là, c'était un avis. Voilà. Donc, par Israël dans les territoires palestiniens, qui constituait une violation du droit international, et pourtant, le mur est toujours là, et même si on regarde les choses, il s'est largement étendu depuis. On se demande, du coup, évidemment, Serge Sûr, à quoi a servi cet avis? Et plus généralement, on s'interroge sur l'utilité d'une institution qui n'a pas les moyens d'imposer ses avis, ses arrêtés, enfin, cette question de la capacité exécutoire de la Cour.
Vous avez tout à fait raison. Mais dans cette affaire du mur palestinien, l'avis a permis de fixer le droit et de dire ce qui est aux yeux d'une très grande majorité d'États, le droit international. Autrement dit, ce mur s'est trouvé délégitimé. Et c'est important sur le plan diplomatique. Ça n'est pas producteur d'effets à court terme, mais ça fait partie d'une entreprise diplomatique de long terme qui vise à faire pression sur un État. Et on peut raisonner de la même manière à propos de ce qu'on appelle, de façon d'ailleurs assez impropre, les sanctions, qui sont en fait des mesures coercitives, des mesures qui visent à faire pression sur un État pour qu'il respecte le droit international. Prenons l'Afrique du Sud, prenons l'Iran. On a le sentiment que ces sanctions, finalement, sont inopérantes. Parce que les politiques se poursuivent, l'apartheid se poursuit, parce que l'Iran biaise, ruse et ne remet pas immédiatement en cause son programme nucléaire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'elles ont une efficacité. Simplement, il faut compter sur la durée. Et le mur n'est qu'un des aspects du conflit israélo-palestinien, qu'un des aspects de la diplomatie internationale à ce sujet. Et l'avenir dira si cet ensemble est utile ou pas.
Ouais, vous parliez de diplomatie internationale, parce qu'on pourrait se dire qu'à la limite, effectivement, cet avis aurait pu avoir une utilité s'il avait permis justement d'améliorer les relations diplomatiques. Mais là, on voit bien que c'est pas le cas. On voit bien aujourd'hui l'impasse diplomatique dans laquelle on est. Est-ce qu'il faudrait pas donner justement à la Cour internationale de justice un outil? Mais alors, faudrait réfléchir à quel outil justement pour imposer ces arrêts, pour imposer ces avis. Et qu'est-ce que pourrait être cet outil?
Écoutez, il faudrait un État mondial. Parce que il faudrait que vous ayez une police internationale qui puisse intervenir pour faire respecter les décisions de justice. Vous savez que ça n'est même pas le cas sur le plan interne. Lorsque vous faites expulser un locataire, par exemple, il faut que vous ayez le concours de la force publique. Il peut toujours vous être refusé. Auquel cas, vous n'aurez comme solution que de vous retourner vers un juge administratif pour demander compensation du préjudice que vous aurez subi. Mais vous n'avez pas de certitude d'avoir le concours de la force publique. Alors, vous imaginez, sur le plan international, ce qu'il faudrait, le type d'État mondial qu'il faudrait pour que l'on puisse arriver à faire respecter des décisions de justice, à supposer qu'il s'agisse de décisions, puisque dans le cas qui nous occupe, c'était un avis.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies pourra avoir ce rôle, imposer.
Oui, il pourrait, il l'a en théorie. Il l'a en théorie, en vertu de l'article 94 de la Charte, il peut faire exécuter, non pas les avis, mais des arrêts de la Cour.
Et pourquoi est-ce qu'il ne l'utilise jamais?
Mais cette
possibilité.
Et parce que le rôle du Conseil de sécurité, c'est le maintien de la paix. À partir du moment où il considère que faire exécuter un arrêt pourrait impliquer un recours à la force armée, il y a là une sorte de contradiction ou de double contrainte dans ses missions. D'un côté, il fait respecter la paix, de l'autre, il devrait utiliser la force. Alors, il préfère s'abstenir et considérer que dans le temps, par voie diplomatique, le différend qui est né de l'inexécution de l'arrêt pourra être réglé. Ce qui se produit le plus souvent d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a des cas, Serge Sûr, où justement, finalement, la Cour internationale de justice a eu un effet pacificateur, a eu ce rôle pour éviter un conflit armé? Est-ce que dans l'histoire de la Cour internationale de justice, il y a des cas?
Écoutez, c'est assez difficile de prévoir ou d'analyser des situations qui ne se sont pas produites.
Bien sûr.
Parce que lorsqu'il n'y a pas de recours à la force, vous pouvez dire que de toute façon, il n'y en aurait pas eu. Mais ce qu'on peut dire que de façon générale, c'est que le recours à la justice internationale a un effet pacificateur. Parce que ça montre que l'État qui fait une requête n'a pas l'intention, lui, de recourir à la force. Qu'il préfère une voie pacifique, une voie diplomatique, une voie judiciaire. Et donc, l'autre partie se trouve de ce fait dissuadée ou se mettrait gravement en tort si, contre cette requête, elle entreprenait de recourir à la force. Alors elle peut faire défaut, elle peut ne pas participer à l'instance, mais recourir à la force serait un défi vraiment absurde sur le plan international.
Les défenseurs de la Cour internationale de justice nous disent que, par exemple, le conflit qui avait eu lieu entre le Cambodge et la Thaïlande à propos d'un temple...
Le
temple de préavis.
Oui.
C'est vraiment l'exemple type où là, on a évité le conflit en réalité. Il y avait des soldats thaïlandais, nous dit-on, sur place, et la vie a fait que tout le monde s'est retiré et qu'il n'y a pas eu de conflit. Là, il y avait peut-être un conflit à la Cour.
On peut dire ça, ouais. Mais qui peut dire si, en définitive... Ouais. On n'était pas en présence de posture militaire plus que d'un vrai risque de guerre.
Encore un tout petit mot sur le cas d'Israël. Pourquoi est-ce que l'État hébreu avait accepté justement que la CIJ tranche sur cette question-là? Il pensait avoir gain de cause.
Ah non, c'est un avis qui a été demandé par l'Assemblée générale.
D'accord, donc là, Israël n'avait pas à reconnaître la compétence.
Ah non, Israël a toujours dit qu'il n'entendait pas que la Cour internationale, pas davantage d'ailleurs que le Conseil de sécurité. Israël ne veut pas entendre parler.
Elle aurait pu très bien imaginer qu'elle était finalement, que l'État hébreu était dans les clous du droit international.
Alors, il y avait au sein de la Cour des juges...
Qui le pensaient.
qui, en tout cas, étaient sensibles à la position israélienne. Mais ils étaient très minoritaires. Il faut pas oublier que la Cour, de par sa composition, va refléter toutes les tendances juridiques et tout de même une certaine diversité d'analyses juridiques dans le monde. Et il y a des décisions qui sont rendues à l'unanimité. Elles sont rares. Et vous savez qu'au sein de la Cour, on a le droit de prononcer des opinions individuelles ou dissidentes, et donc la Cour peut procéder ainsi à une sorte de critique interne ou de contrôle interne, ce qui est propre à une procédure de type anglo-saxon, ce qui n'est pas très bien vécu sur le plan du droit européen, mais c'est assez satisfaisant en définitive pour une juridiction mondiale.
Serge Sûr, dans son avis, puis ensuite on va parler de l'Ukraine, mais dans son avis, la Cour internationale de justice fait porter à la communauté internationale la responsabilité de faire respecter le droit. Il est même précisé que les États ne doivent pas, je cite, reconnaître la situation illicite découlant de la construction du mur et ne pas prêter aide ou assistance à cette situation. Cette partie-là de l'avis, non plus, n'est pas respectée. Par la communauté internationale, pour le coup.
Non, puisque c'est un avis, par définition. Alors, quand même beaucoup le respect.
Oui, mais vous nous dites, ça a de l'effet, même si il n'y a pas de clause exécutoire, mais là, dans ce cas, c'est pas le cas.
Non, son effet n'est pas, je vous dis, son effet n'est pas à court terme. Son effet est d'abord un effet de délégitimation, ce qui est tout de même important sur le plan international. Et l'isolement diplomatique d'Israël est tout de même quelque chose de très frappant. On a l'impression que Israël s'est enfermé lui-même dans un ghetto diplomatique, dont d'ailleurs il ne souhaite pas tellement sortir. Et à long terme, c'est improductif et c'est même dangereux pour cet État. Alors, ce qu'on peut dire tout de même, c'est que pour ne pas aider, ne pas soutenir, ça relève du droit de l'occupation. Et Israël est une puissance occupante qui a des droits et des devoirs en tant que puissance occupante à l'égard des territoires palestiniens. Et vous avez eu en France, encore récemment, des actions judiciaires menées contre des compagnies françaises qui travaillaient, disaient les requêtes, qui travaillaient en violation du droit international et notamment du droit relatif à l'occupation. Alors pour le moment, elles n'ont pas réussi dans leurs demandes parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas de violation du droit, mais il y aurait pu avoir violation du droit, auquel cas les entreprises auraient été sanctionnées.
Depuis des mois, Serge Sûr, les Russes et les Occidentaux se disputent sur la question de l'Ukraine, même si c'est vrai, le front ukrainien s'est assez largement apaisé. On se souvient de l'annexion de la Crimée en mars 2014, avait suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de critiques, les Occidentaux considérant que les Russes avaient bafoué le droit international, les Russes le réfutant, en tout cas rappelant le précédent du Kosovo, mais aussi peut-être de la Libye, où les Occidentaux avaient, en tout cas de leur point de vue, dépassé les mandats onusiens. C'est un litige interétatique par excellence. C'est un dossier qui pourrait être soumis à la Cour internationale de justice.
Il pourrait l'être, indiscutablement. Il pourrait même y avoir un avis consultatif sur l'annexion de l'Ukraine.
Pourquoi n'allait-il pas?
Parce que, pour le moment, l'Assemblée générale ne l'a pas demandé. C'est à l'Assemblée générale de le demander. Le Conseil de sécurité ne le fera pas, puisque la Russie a un droit de veto. Mais vous savez, ça rappelle une règle qui avait été formulée, une règle qui n'est pas une règle de droit, mais qui est plutôt une règle de pratique, qui avait été formulée par un juriste britannique, Lauterpacht, Sir Ernst Lauterpacht, et qui disait « De maximis non curat praetor ». Le juge ne s'occupe pas des questions importantes. Il ne peut pas s'en occuper. Alors, certains disent, vous avez une distinction entre des différents politiques et des différents juridiques. Par exemple, l'Ukraine, c'est le type même du différent politique. Alors que les différents juridiques, finalement, ce serait pour les petites choses. C'est une erreur. Parce que tout différent a à la fois une dimension politique et une dimension juridique. Et tout conflit politique met en cause des règles de droit et peut être réglé sur la base du droit. Simplement, dans certains cas, on veut changer le droit, et la Cour ne peut rien dire, puisque son rôle est d'appliquer et pas de changer. Ou alors, il y a des interprétations divergentes sur ce qu'est le droit, mais personne ne veut que ça soit tranché par un juge.
Attendez, vous nous dites quand même que, en gros, l'annexion de la Crimée, de façon assez amusante, finalement, est une affaire trop importante pour la confier à un juge. On s'était pas dit ça pour la question du Kosovo. Il faut rappeler que la CIJ avait été saisie sur
l'indépendance du Kosovo, mais pas sur l'intervention.
Sur la déclaration d'indépendance
Mais pas sur l'intervention. Elle était saisie sur l'indépendance et elle a renvoyé la question. Parce que la question était libellée de telle façon qu'on ne lui posait pas le problème de principe de l'indépendance, mais simplement le point de savoir si l'Assemblée nationale avait le droit, enfin l'Assemblée nationale du Kosovo, avait le droit de proclamer l'indépendance.
Elle a répondu oui. La déclaration d'indépendance du Kosovo adoptée le 17 février 2008 n'a pas violé le droit international.
N'a pas violé le droit, ni non plus violé une résolution du Conseil de sécurité.
Mais on aurait pu faire la même chose pour le référendum sur la Crimée.
Encore faudrait-il que l'Assemblée générale demande un avis. Elle ne l'a pas fait.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a une majorité d'États qui ne sont pas décidés à le faire. Remarquez, nous sommes au mois de mai, rien ne dit qu'à la prochaine session de l'Assemblée générale, à l'automne, quelqu'un n'aura pas l'idée de poser la question. Mais je pense que la majorité des États considéraient que ça serait un élément qui envenimerait le conflit plutôt que contribuerait à le régler. Et les grandes puissances n'y sont pas favorables. Vous avez le format Normandie, vous avez le groupe de Minsk, on négocie, on discute, tout ça relève des négociations diplomatiques et politiques et pas du juge.
Et est-ce que du point de vue du droit international, l'annexion de la Crimée est défendable ?
Oui, parfaitement, elle est parfaitement défendable sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle rappelle dans une certaine mesure l'affaire du Kosovo. Donc la position russe est parfaitement défendable.
Et quid du référendum de Budapest de 94 dans lequel les Russes s'engageaient à respecter...
Ah, donc c'est pas un référendum, c'est un accord.
Pardon, le mémorandum, excusez-moi, oui, de Budapest de 94 dans lequel les Russes s'engageaient à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est du droit international, ça?
Je suis tout à fait d'accord, mais qui vous dit qu'ils l'ont violé? Parce que vous avez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et la demande de rattachement est venue de la Crimée. Il y a eu un vote en Crimée avant qu'il y ait l'acceptation par la Douma. Et donc nous sommes dans une logique de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme au Kosovo. Je rappelle qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité qui réaffirmait l'intégrité territoriale de la Serbie. Et malgré ça, ça n'a pas empêché qu'on dise « Oh ben, le Kosovo peut se déclarer indépendant ». Donc nous avons un certain parallélisme des situations.
Et on pourrait imaginer Poutine, justement, demander un avis à la CIJ ?
Non. Certainement pas.
Pourquoi ?
D'abord parce que lui ne le peut pas. Il faudrait que ce soit l'Assemblée générale des Nations Unies qui le demande. Et il faudrait pour ça qu'il y ait une majorité d'États qui se prononcent. Mais c'est pas du tout l'intérêt de Poutine que cette affaire aille devant la Cour internationale. Compte tenu de sa composition... Et compte tenu de la décision dans l'affaire du Kosovo, je ne suis pas certain que la Russie en tirerait grand avantage.
Cour internationale de justice, sortir de l'impasse diplomatique, c'est notre sujet ce matin avec Serge Sur.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Et l'affaire qui occupe beaucoup en ce moment, Serge Sur, l'institution, c'est cette plainte des îles Marshall contre plusieurs pays qu'elle considère comme responsables des conséquences des essais nucléaires réalisés dans la région, bafouant les engagements pris dans le cadre du traité de non-prolifération.
C'est d'une distance de 50 km à bord d'un navire que l'explosion devait être commandée par radio. Minute dramatique où tous les visages se couvraient d'un masque pour éviter tout rayonnement. En quelques secondes, une boule de feu se gonflait jusqu'à atteindre 5 km de diamètre. Et aussitôt, un raz-de-marée couvrait les plages les plus éloignées de l'archipel. Les champignons s'élevaient rapidement. Un hélicoptère envoyé en reconnaissance découvrait alors les effets de l'explosion. 700 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, cette bombe H détruirait sur un cercle couvrant Paris de Colombes à Joinville tout symptôme de vie.
On était en avril 1954, nouvelle expérience atomique avec l'explosion de cette bombe H sur les îles Marshall. Avril 54, 60 ans plus tard, avril 2014, les îles Marshall déposent une plainte à la CIJ contre toute une série de pays qu'elle accuse, je cite, de ne pas s'acquitter de leurs obligations relatives à la cessation de la course aux armes nucléaires, à une date rapprochée et au désarmement nucléaire. On va retrouver Laurie Ashton, qui est avocate et qui défend justement les îles Marshall aux États-Unis et auprès de la CIJ. Avec d'autres confrères, l'économie des îles Marshall repose très largement sur les compensations financières versées notamment par les États-Unis, parce qu'entre 46 et 58, les États-Unis n'ont pas réalisé moins de 97 tests nucléaires au beau milieu de l'atoll, l'apogée étant 1954 avec cet essai dit Castle Bravo, et ça qui a forcé à l'exil les habitants et dont les radiations contaminent encore aujourd'hui. Ces États-Unis qui ont reconnu leur culpabilité, qui ont accepté de payer, mais là il ne s'agit pas de réparation financière pour les îles Marshall, mais de désarmement nucléaire. Les Iliens ont intenté un procès à 9 puissances nucléaires, États-Unis, France, Royaume-Uni, Israël, Pakistan, Inde, Russie, Chine et Corée du Nord, mais en mars dernier, lors des premières audiences publiques à La Haye, seuls 3 pays étaient évoqués, le Pakistan, l'Inde et le Royaume-Uni. Retrouvez Laurie Ashton, donc avocate du cabinet Keller Rohrbach en Arizona, et donc avocate des îles Marshall, qui est au micro de Clément Salazar.
So, the Marshall Islands filed 9 applications. Les îles Marshall ont déposé 9 requêtes, mais l'Inde, le Pakistan et le Royaume-Uni, eux, ont officiellement déposé une déclaration d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour. Ils acceptent donc systématiquement. Ce n'est pas le cas des 6 autres pays. Les requêtes déposées pour ces 6 pays, dont la France, n'étaient donc que des invitations à choisir cette instance pour statuer sur leurs obligations juridiques. Or, ces pays ont tous décidé de ne pas le faire. Il existe une multitude de raisons pour lesquelles ils devraient ou pourraient reconnaître la compétence de la Cour, notamment la gravité et l'importance du sujet, les armes nucléaires, ou encore le fait que la Cour est largement reconnue comme la plus haute instance judiciaire mondiale. Bref, de nombreuses raisons qui devraient pousser ces pays à accepter que leurs différends soient portés devant la justice. Mais voilà, aucun ne s'y est décidé.
Donc, quelle est pour vous, Laurie Ashton, la prochaine étape? Qu'attendent les îles Marshall? Qu'attendez-vous de la Cour internationale de justice?
The best way to explain that to your audience is in two parts.
La meilleure manière d'expliquer cela à vos auditeurs, c'est d'envisager la chose en deux temps. Tout d'abord, la question de savoir si la Cour va se déclarer ou non compétente et quelle sera sa décision quant à la recevabilité des plaintes. Lors de ces audiences, nous entendons donc prouver que la Cour est bel et bien compétente pour se prononcer sur les 3 affaires et que les plaintes sont recevables. Nous recherchons donc un arrêt de la Cour qui nous permettrait ensuite de passer à la 2e étape, l'examen sur le fond. Lors de l'examen sur le fond, nous espérons obtenir un jugement déclaratoire et une injonction. S'agissant du jugement déclaratoire, en résumé, la Cour déclarerait donc pour chaque affaire, car ce sont des affaires distinctes à chaque fois, que le pays concerné manque à ses engagements de négocier de bonne foi sur le désarmement nucléaire. Et l'injonction consisterait à exiger que ces pays respectent leurs engagements. Ils devraient alors changer d'attitude et respecter l'ordre donné par la Cour disant « Vous êtes tenus de négocier de bonne foi sur le désarmement nucléaire ».
Ce problème de compétence, de juridiction de la Cour, il était par exemple pointé du doigt par le Pakistan en amont des audiences de mars. Le fait que le Pakistan ne soit pas signataire du traité de non-prolifération nucléaire, est-ce aussi un obstacle pour que soit justement compétente la CIJ?
Les recours formés contre l'Inde et le Pakistan reposent sur le droit international coutumier. L'argument principal est que selon les prescriptions du droit international coutumier, les États non partis au traité de non-prolifération, ils sont 4, sont cependant tenus légalement de négocier de bonne foi le désarmement nucléaire, et cette obligation a été définitivement reconnue pour la première fois par la Cour internationale de justice dans son avis de 1996.
Mais cet avis de 1996 de la Cour sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires n'a pas conclu à l'illicéité de ces armes.
La Cour a déclaré qu'elle n'était pas en mesure, sur les bases juridiques de l'époque, de conclure à l'illicéité des armes nucléaires dans toutes circonstances, ni qu'elles menaçaient l'existence même d'un État. En revanche, elle a conclu qu'elles constituaient une violation du droit international humanitaire.
Est-ce que votre ligne de défense repose sur cet avis?
Not exactly. The linchpin of the decision.
Pas exactement. La clé de voûte de l'avis de 1996, c'est qu'il existe une obligation légale de poursuivre de bonne foi des négociations en vue du désarmement nucléaire à tout point de vue. L'objet de la plainte est que l'Inde et le Pakistan, mais également les 7 autres pays, ne poursuivent pas de bonne foi des négociations permettant le désarmement nucléaire. Au lieu de cela, ces États développent leur arsenal nucléaire, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Lorsque vous présentez un recours, vous courez évidemment toujours le risque que le juge ne soit pas du même avis que vous. Mais ici, je crois que les arguments des îles Marshall sont bel et bien des arguments juridiques, parfaitement motivés et très solides. Ils devraient déboucher sur l'obligation pour les États poursuivis de respecter la légalité. Parce que dire alors de la Convention sur les armes chimiques ou de la Convention sur les armes biologiques, si vous pouvez avoir un traité de non-prolifération des armes nucléaires, que tous les États nucléaires partis au traité bafouent? Que penser du statut des obligations légales internationales si l'on ne peut pas les faire respecter? C'est quelque chose d'inacceptable.
Est-ce qu'il s'agit avant toute chose, Laurie Ashton, d'une bataille symbolique pour les îles Marshall, qui par ailleurs sont très actives sur la scène internationale ces dernières années, tant leur avenir est menacé par la sécheresse, le dérèglement climatique, et tant elles ont de fait besoin d'exister sur l'échiquier diplomatique mondial?
C'est quelque chose que j'ai souvent entendu au cours des deux dernières années. La presse s'est souvent référée à cette affaire comme un combat existentiel de David contre Goliath, et je pense qu'il y a bel et bien un élément symbolique de cet ordre, et c'est une image très forte selon moi. Mais ce n'est pas du tout la base des recours juridiques. Les plaintes sont étayées par de solides arguments de droit international. Je sais qu'il est parfois difficile d'imaginer comment un État minuscule et économiquement dépendant comme les îles Marshall, qui compte moins de 70 000 habitants, peut s'attaquer à ces puissances nucléaires. Mais vous savez, si l'on regarde le passé et les essais nucléaires, et la façon dont ces habitants ont directement souffert de l'exposition à la radioactivité, on comprend tout de suite mieux ce qui les a poussés à agir. Il leur a fallu beaucoup de courage, c'est sûr.
La voie judiciaire, en l'occurrence la voie judiciaire internationale, est-elle la plus appropriée pour parvenir à ce qu'aspirent les îles Marshall, soit le désarmement nucléaire du monde?
Je ne pense pas que ce soit la seule solution. Je pense que c'est une excellente solution et que s'adresser à la Cour internationale de justice est un excellent moyen de faire respecter les droits, parce que la Cour est le principal organe judiciaire des Nations Unies et parce qu'elle est reconnue comme telle par tous les États membres des Nations Unies.
Laurie Ashton, donc depuis Phoenix, avocate des îles Marshall, dans ce procès intenté à 9 puissances nucléaires, au micro de Clémence Alezard. Serge Sûr, réaction quand on entend Laurie Ashton, on a quand même l'impression finalement que cette CIJ, bien c'est le défenseur des faibles contre les forts. Et d'ailleurs, elle le disait, il y a quelque chose du combat de David contre Goliath.
Écoutez, les réactions que j'aurais sont sur un plan un petit peu différent. Je crois que c'est une opération tout à fait médiatique, qui d'ailleurs a été lancée par des ONG. Derrière cette requête, il y a des ONG, comme il y avait des ONG lors de l'avis consultatif de 96 sur la question de savoir si l'emploi des armes nucléaires était licite en toutes circonstances. C'était l'Assemblée générale suivait au fond un mouvement qui était lancé par les ONG. Alors, à la limite, on pourrait se demander s'il n'y a pas un détournement de procédure, parce que ce sont des acteurs privés qui investissent un État et un petit État pour lui faire porter une cause qui est manifestement plus grande que lui. Alors moi j'aurais trois réactions par rapport à ce qu'on vient d'entendre. La première chose, c'est qu'il me semble y avoir une confusion entre la détention et l'utilisation. Jamais la Cour n'a dit que la détention était contraire au droit international, et d'ailleurs ce serait contraire au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui reconnaît le droit d'un certain nombre d'États de détenir des armes nucléaires. Et là-dessus, il y a une très grande différence avec les armes biologiques et avec les armes chimiques, qui sont interdites dans leur principe même, et on n'a pas à conserver de stock, alors que pour ce qui est de l'arme nucléaire, les puissances nucléaires qui sont identifiées comme telles au moment du TNP, c'est-à-dire les cinq puissances nucléaires, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, sont parfaitement dans une situation légale. Première confusion. Deuxième confusion, c'est entre le traité sur la non-prolifération et la coutume internationale. L'obligation de négocier, elle incombe aux parties au TNP. En faire une règle coutumière, c'est extrêmement hardi. En tout cas, c'est très problématique. Alors, je sais bien que la Cour a une certaine flexibilité dans l'appréciation de ce qu'est une coutume internationale. Mais les États qui ne sont pas partis au TNP n'entendent pas négocier, n'ont jamais entendu négocier le désarmement nucléaire. Ils ne participent pas aux conférences d'examen du TNP, qui sont des conférences quinquennales.
Et donc, sans compter que beaucoup, toute petite parenthèse, mais beaucoup l'ont signé sans le ratifier.
Ah, d'ailleurs. Pratiquement tous les pays l'ont ratifié. Hein. Non, pratiquement tous les pays l'ont ratifié. Non, il y a quatre pays qui ne l'ont pas ratifié.
Ouais, d'accord.
Et quatre pays, les quatre qu'elle a mentionnés, c'est-à-dire Israël, le Pakistan, l'Inde, et puis la Corée du Nord qui s'en est retirée. Mais les autres sont partis. Et puis la troisième difficulté ou incohérence, c'est négocier, d'accord, mais négocier avec qui? Imaginez que la Cour donne l'injonction à l'Inde, au Pakistan et au Royaume-Uni de négocier. Mais négocier avec qui? Les autres ne sont pas obligés de respecter ces avis, ces arrêts, qui n'ont que l'autorité relative de la chose jugée. Donc il y a quelque chose de tout à fait bancal dans cette demande.
D'accord, mais pour le dire autrement alors, est-ce que cette CIJ, c'est pas un instrument d'abord et avant tout consacré aux petites puissances? On a l'impression que les grandes puissances l'utilisent pas beaucoup. On prenait tout à l'heure le cas de la Russie qui n'a pas demandé d'arrêt, par exemple, à propos, puisqu'elle ne peut pas demander d'avis, elle peut demander des arrêts, en revanche, sur la question de la Crimée. On n'a pas vu non plus les États-Unis demander quoi que ce soit. On a l'impression que c'est plutôt les petits pays qui sollicitent.
De maximis non curat praetor. C'est la règle pratique que je vous rappelais tout à l'heure. Le juge ne peut pas s'occuper des grandes affaires. On pourrait dire qu'il a du mal à s'occuper des grands États, qui n'aiment pas, qui ne voient pas pourquoi 15 personnes, comme ça, un peu hors sol, viendraient décider de leurs affaires. Il y a une sorte de résistance de principe, ça c'est vrai.
Allez, on va s'intéresser, Serge Sûr, au Costa Rica, parce que les pays d'Amérique latine figurent parmi les pays qui ont lancé le plus de requêtes auprès de la CIJ, notamment pour régler les contentieux frontaliers, bien sûr. Tiens, on va prendre l'exemple du Costa Rica et du Nicaragua.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les juges, c'est un honneur de comparaître à nouveau devant votre haute juridiction pour défendre les droits du Costa Rica. Vous avez déjà entendu les explications historico-géographiques relatives au territoire que j'appellerai, entre guillemets, contesté, pour les raisons que je vais développer ultérieurement. Vous venez également d'entendre les raisons qui fondent la souveraineté costaricienne sur la partie nord d'Isla Portillos. Ces raisons sont très simples et n'ont pas besoin de reposer sur des constructions artificielles ou alambiquées. Tout autre est la revendication nicaraguayenne.
Voilà, donc plaidoirie du professeur Cohen dans l'une des affaires entre Costa Rica et le Nicaragua, qui plaide là donc au Palais de la Paix à La Haye. Bonjour Nicolas Béglin.
Bonjour, bonjour, bonjour. Enchanté de vous entendre et très content de partager avec mon ancien professeur Serge Sûr cet espace.
Et je vous salue.
Voilà, et ben merci beaucoup parce que vous êtes en plus en direct, donc il doit être très très tôt chez vous, quelque chose comme 3h40. Donc un grand merci d'avoir accepté d'être en direct avec nous. Vous êtes chercheur et enseignant en droit international public à l'Universidad de Costa Rica. Depuis plusieurs années, il y a des tensions entre le Costa Rica et le Nicaragua à propos de ce petit territoire situé à l'embouchure du fleuve San Juan. Récemment, la CIJ, la Cour internationale de justice a tranché cette affaire, considérant que le Nicaragua avait violé les droits de navigation sur le fleuve San Juan, je cite. Par ailleurs, la CIJ a imposé au Nicaragua, je cite encore, d'indemniser le Costa Rica en raison des dommages matériels qu'il a causés par les activités illicites auxquelles il s'est livré sur le territoire costaricien. Ça y est, Nicolas Béglin, le contentieux entre les deux pays est réglé, le Costa Rica est satisfait, le Nicaragua va se plier à cette décision, ils vont pouvoir retrouver des relations diplomatiques apaisées.
Oui, alors c'est une affaire qui est un petit peu plus compliquée que cela. En fait, c'est un arrêt qui essaye de trancher deux affaires. La première affaire, effectivement, c'est une incursion illégale du Nicaragua au Costa Rica. Mais en réponse à cette incursion, le Costa Rica a procédé à la construction d'une route longue de 166 kilomètres qui longe toute sa frontière. Et le Nicaragua a présenté une requête contre le Costa Rica concernant une route qui, disons, a ignoré complètement tout ce qui avait à voir avec l'environnement. Et donc, le 16 décembre dernier, la Cour a tranché sur ces deux affaires qui ont été jointes d'une façon assez inédite par la Cour internationale de justice. Et donc, elle a effectivement condamné le Nicaragua à se retirer d'un territoire qui a toujours appartenu au Costa Rica, mais elle a aussi condamné le Costa Rica en lui disant « on ne peut pas faire une route qui longe un fleuve international comme le fleuve San Juan sans aucune étude d'impact ». Et ça, évidemment, ici au Costa Rica, ça n'a pas été très bien pris. Alors, elle oblige les deux États, pendant un an, à trouver un montant d'indemnisation du Costa Rica, que le Nicaragua doit payer au Costa Rica. Et s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors on repart encore une fois sur La Haye pour quelques années de discussion.
Mais est-ce que vous avez le sentiment, Nicolas Béclin, que justement on a envie de résoudre ce problème-là et qu'on va faire les efforts pour trouver un accord qui convienne à l'un et à l'autre ?
Voilà, alors c'est là qu'on a un petit doute dans la mesure où durant les dernières 3 années et demie, le Costa Rica et le Nicaragua ont présenté 3 requêtes. Et si on va un petit peu plus dans le temps, il y a 4 requêtes en 8 ans et demi. C'est quelque chose, c'est du jamais vu à La Haye. À La Haye, en général, on va une fois tous les 15 ou 20 ans. Mais là, c'est vraiment une utilisation, à mon avis, abusive du juge international pour essayer de résoudre des conflits qui sont d'ordre très technique et que la Cour a du mal à régler dans la mesure où les deux États n'ont aucune, ou pour le moins ne montrent aucune intention de vouloir vraiment régler ces affaires-là. Le premier arrêt qui a été rendu en 2005 sur les droits de navigation, il n'a rien réglé dans la mesure où le Costa Rica a donné son interprétation de son arrêt. Le Nicaragua fait exactement de même en adoptant un règlement sur la navigation sur le fleuve San Juan en 2009. Et depuis, eh ben, ma foi, la question n'est pas réglée pour les riverains du San Juan. Donc on voit bien que on va à La Haye pour des choses très sérieuses. Et lorsque ce sont des choses très techniques, ben ma foi, tout repose sur la bonne foi des deux parties. Et je vois mal le Costa Rica aller devant le Conseil de sécurité exiger que le Nicaragua se plie à ses obligations en ce qui concerne les droits de la navigation sur le fleuve San Juan. C'est quand même quelque chose de très très technique. Et on voit bien là la difficulté pour un État d'obtenir le respect de l'autre partie sur une question qui finalement n'est pas une question sinon d'ordre très technique.
C'est très technique, Nicolas Béglin, mais on voit aussi que cette affaire, elle illustre cette difficulté qui est d'ailleurs assez ancienne pour ces deux pays qui ont du mal à se parler. En réalité, au-delà des questions techniques, des questions frontalières, on voit bien qu'on est aussi là dans l'incapacité de résoudre les choses par voie diplomatique. On a du mal à coopérer. D'ailleurs, regardons sur, par exemple, la lutte contre le narcotrafic, on voit bien que la coopération est très difficile, voire quasiment impossible. Comment comprendre peut-être ces relations et puis surtout, comment comprendre que finalement les institutions régionales, pour le coup, ne parviennent pas à instaurer justement un dialogue serein entre les deux pays? Pourquoi, par exemple, est-ce que le SICA, le système d'intégration centra-américain, qui est donc cette organisation politique, économique, culturelle des pays d'Amérique centrale, qui est en vigueur depuis 93, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en capacité de proposer un médiateur et de rassembler finalement les conditions du dialogue?
Oui, alors le SICA, encore mieux que ça, il a une Cour centra-américaine de justice dont la juridiction est reconnue par le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala, mais pas par le Costa Rica. Le Costa Rica s'oppose à cette juridiction et dans l'affaire de la route parallèle au fleuve San Juan, le Nicaragua a présenté une requête contre cette Cour et devant cette Cour et cette Cour s'est déclarée compétente. Ce qui est tout de même aussi un petit peu délicat puisque il y a un principe du droit international que tout le monde connaît bien, c'est le consentement de l'État à être jugé par un tiers, en l'occurrence la Cour centra-américaine de justice. Alors, entre le Costa Rica et le Nicaragua, ce que je pressens, c'est qu'il y a finalement, un avantage politique à maintenir une ligne de confrontation aussi bien à Managua qu'à San José, et que finalement toutes ces affaires à La Haye, ça représente tout de même des avantages pour un petit groupe de juristes et un petit groupe de diplomates, de conseillers qui se trouvent très à l'aise d'aller à La Haye tous les 6 mois plaider et disons montrer que ce sont les grands défenseurs de ces deux États. À l'heure actuelle, et ça fait maintenant presque 5 ou 6 ans, il n'y a pas eu de réunion au haut niveau entre les deux États. Et là, je voudrais mettre l'accent sur le fait suivant. Lorsque la Cour tranche entre le Chili et le Pérou en 2013, 15 jours après, vous avez les deux présidents qui se réunissent. Lorsque la Cour tranche en 2010 entre l'Argentine et l'Uruguay, vous avez 15 jours après Mme Kirchner et M. Mujica qui se réunissent. Eh bien, la Cour a tranché le 16 décembre 2015 entre le Costa Rica et le Nicaragua et personne ne parle d'une réunion à haut niveau entre les deux chefs d'État.
Donc, ça va bien au-delà, finalement, de cette question précise. Finalement, les problèmes diplomatiques, les tensions entre les deux pays vont bien au-delà de tout ça. Serge, je suis sûr que vous voulez réagir.
Non, je trouve que les explications qui sont données sont extrêmement claires.
Et c'est passionnant.
Et que, d'un côté, on voit bien qu'il y a une sociologie du contentieux. Il y a des milieux qui ont intérêt à ce que le contentieux se développe, se poursuive, se prolonge. Et puis, d'un autre côté, il y a une instrumentalisation de politique intérieure, c'est-à-dire que on montre sa fermeté et on ne cède pas, et donc on a intérêt à laisser le conflit, je dirais, non pas gelé, mais à feu doux.
Alors, on voit bien le gain politique, mais enfin, on s'interroge sur le coût économique, parce que tout ça coûte de l'argent aussi, Serge Sûr.
Oui, Oui, ça coûte de l'argent.
Pour un petit pays comme le Costa Rica.
Ça en rapporte à certains et ça en coûte à la collectivité nationale.
Nicolas Béglin, en quelques mots, ça coûte beaucoup au Costa Rica et au Nicaragua.
Ça coûte beaucoup. Alors, les États sont très discrets sur le montant exact, mais grâce au Chili, grâce au Conseil de la transparence du Chili, on sait que le Chili a dû utiliser 21 millions de dollars pour répondre à la requête péruvienne. C'est vous dire la quantité d'argent qui circule chaque fois qu'il y a une affaire. Et évidemment, les États sont très discrets. Alors ici, au Costa Rica, on nous a dit non, ce qu'on a à peu près utilisé, ce sont 5 millions de dollars. Même si ce sont 5 millions de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent pour le Costa Rica et pour le Nicaragua, qui a sûrement peut-être mis un petit peu plus d'argent, pour deux États qui ont quand même d'autres priorités au plan politique et au plan du développement. Et on se demande un petit peu si les décideurs politiques ne seraient pas bien conseillés à utiliser un petit peu mieux leur argent, notamment deux pays qui ont une frontière qui partage la pauvreté. Parce que des deux côtés de la frontière, vous avez des communautés qui partagent les mêmes souffrances, les mêmes limitations, et ça c'est un petit peu, disons, lamentable par rapport à ces grandes quantités d'argent que l'on utilise à La Haye pour essayer de régler des choses qui peuvent se régler dans une salle entre deux équipes de négociateurs.
Et ben voilà, ça c'est dit, Nicolas Béglin, depuis San José, chercheur enseignant en droit international public à l'Université de Costa Rica. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct, et doublement merci, puisqu'il est très tôt chez vous, je le rappelle. Il doit être à présent 3h50 du matin. Donc, je pense que vous pouvez désormais retourner dans les bras de Morphée. Un grand merci. Et puis, un grand merci à vous, Serge Sion.
Merci beaucoup.
De nous avoir accompagnés ce matin pour cette première émission d'une longue série sur la justice internationale. Je rappellerai que vous êtes professeur de droit international et rédacteur en chef de Questions internationales. L'excellent Questions internationales. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.